puisque on est dans une situation que on est clairement saisi ou comprend c'est quoi la position sur l'article de pays comme Canada ou des, ce qu'on appelle A5, les 5 pays RIFRE. Souvent on a une sorte de méthodologie, on pense que voilà, nous sommes des pays démocratiques, notre prise de décision sont des processus transparents, donc on a moins peur. On a moins peur de pays démocratiques, on a moins peur de pays libéraux, mais la Chine, puisqu'on ne sait, on ne sait pas comment le gouvernement chinois a pris la décision. On ne sait pas comment, tout à coup, du jour au lendemain, il y a si beaucoup de destroyers, il y a si beaucoup de sous-marins qui apparaissent dans, dans le territoire maritime chinois. Alors, on a peur. Et ça, c'est un grand problème pour les chercheurs, pour les chinologues, pour les politologues. Essayer de comprendre c'est quoi l'intention du gouvernement chinois, mais je peux vous dire, même pour les politologues chinois, ce n'est pas évident. C'est pas comme nous avons des processus normaux de consultation publique. Voilà tout ce que des chercheurs ou des partis prenants qui exprimaient leur intérêt, et puis le gouvernement rassemble tous les autres et puis essaye de faire une décision qui fait plaire à tout le monde. Le gouvernement chinois a une autre façon de faire la décision, faire la, prendre une politique qui est nécessaire, qui est importante pour la sécurité nationale ou pour les, dans les domaines relations internationales. Alors c'est très difficile de savoir ce qu'on entend dans les scènes, comme l'opinion publique ou les publications gouvernementales. Ça joue combien dans la réalité de la, le processus de prise de décision. Ça, c'est un processus un peu toujours opaque et difficile à décrypter. Alors, pour cette raison, au lieu de travailler sur le document officiel du gouvernement chinois, en fait, il n'a pas dit grand-chose sur la politique arctique, on va essayer d'aller chercher un peu plus loin comment les chercheurs chinois, les politologues ou des chercheurs sur les relations internationales chinois regardent la puissance chinoise ou éventuelle l'acte sur la région arctique. Alors, pour commencer notre étude, nous avons choisi un discours ou un débat qui est dans ces 10 dernières années très important au sein de la société chinoise. C'est une identité sur un pays comme la Chine. Est-ce que la Chine doit devenir un pays maritime ou un pays continue de rester dans leur statut continental? Alors là, il y a plusieurs différentes opinions, chacun a leur point de vue assez varié, mais c'est un débat qui est alentour d'une théorie qui s'appelle la puissance maritime de Alfred Marin. Très étonnant qu'un grand partisan ou un grand penseur de la stratégie colonialiste qui devient si à la mode en Chine. Alors on va essayer de discuter à partir de lui et à partir de ce contexte pour essayer de savoir ou essayer de deviner c'est quoi qui va déterminer la direction de la politique chinoise envers l'Arctique. D'abord, vous voyez, ici, on a choisi un dessin très intéressant, mais c'est un dessin, c'est pas un dessin fait par chinois, ça se voit, c'est un style très japonais. Alors, il raconte quoi? Il raconte la première guerre sino-japonaise. Ça, c'est la première guerre ou un premier échec qui a fait chinois commence à sentir l'importance de la puissance ou le contrôle de la mer. Alors on va commencer par ici. Si vous avez suivi de l'actualité, vous savez que maintenant il y a encore une fois de grandes disputes territoriales entre la Chine et le Japon sur les îles de Diaoyu. En Japon, on l'appelle Senkaku. Alors, ce conflit est déjà suffisamment important et populaire jusqu'à les Américains récemment ont déjà envoyé deux flottes de porte-avions alentour de ce région. Il y a un qui est à côté de Guam et l'autre qui est déjà tout près des îles de Diaoyu. On ne peut pas imaginer que les Américains cette fois veulent encore faire la même chose comme des années 95 quand il y a des crises de détroit de Taïwan. Mais il y a un geste qui a été posé et on va en attendre de regarder qu'est-ce que ça sera la réaction de la part du Japon et de la part de la Chine. Mais les Américains sont déjà là. Alors, ça nous rappelle encore une fois les sentiments chinois envers leur statut qui est très bien menacé et très bien détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale et bien au-delà à partir de la fin des années 19e siècle. Ici, c'est des îles qui sont en question. Au Japon, on s'appelle Senkaku Reto. En Chine, on s'appelle Diaoyu, l'île de Diaoyu. Et à Taïwan, on s'appelle Diaoyu Tai. Tai, c'est, en chinois, s'appelle plateau. Et il y a une revendication de ces trois parties. Mais, de la position de Pékin, il n'y a pas trop de problème avec Taïwan. Parce que, de toute façon, Taïwan, c'est une partie inséparable de la Chine. Donc, si cette île appartient à Taïwan, ça veut dire appartient à tous les Chinois. Donc, il n'y a pas de problème. Et les Taïwanais essayaient de faire quelque chose pour protéger le droit de pêche dans cette région. Et bien sûr, ici, il s'agit du Japon. Et pourquoi les Chinois sont si sensibles sur la position du Japon? Ça doit retracer dans la première guerre sino-japonaise. On va essayer d'abord voir qu'est-ce qui se passe dans 1894 et 1895. C'est 30 ans après la restauration de Meiji et c'est également 30 ans après la première tentative de la modernisation de la dernière dynastie Qing. Alors, les deux pays ont à peu près même temps commencé à moderniser leur marine, leur équipement militaire, mais dans cette guerre entre le Japon et la Chine. La Chine a des flottes de Beiyang, ça veut dire la mer du Nord, a été tout détruite par la flotte combinée du Japon. Alors il y a beaucoup de chercheurs et des historiens étudiés d'où vient cet échec. En plan matériel, la Chine est beaucoup plus avancée que le Japon. On a des bateaux beaucoup plus grands. On a des bateaux plantés. À l'époque, la plupart des bateaux sont toujours en bois, mais la Chine a déjà procuré deux grands bateaux qui ont des déplacements, qui ont des déplacements beaucoup plus grands que le bateau du Japon. Mais malheureusement, le résultat est au contraire. Le Japon a battu la Chine. Alors, souvent, on essayait d'attribuer cet échec à la corruption de la cour de Qing dynastie. On pense que voilà, c'est à cause de tous ces fonctionnaires qui veulent flatter la reine qui est en souverain, parce que son anniversaire de 70 ans est approché. Donc on a alloué l'argent, le budget naval qui a été censé pour utiliser pour améliorer la puissance de feu de flotte de Peya et aussi acheter des munitions. On va utiliser ça. On a utiliser cet argent pour construire un très joli jardin et ce jardin a été détruit dans la révolte de Boxer de 1900. Donc malheureusement ça marche pas et on pense que voilà, construire une grande puissante marine ça sert à rien parce que la Chine n'a pas besoin. Continue ce concept, ça se trouve encore aujourd'hui dans la société chinoise. On n'est pas, de toute façon, les Chinois n'ont jamais été un peuple maritime. Ça veut dire que les Chinois ne veulent pas aller chercher le territoire, la colonie, en dehors de ce continent. Alors pourquoi on a besoin si beaucoup de ressources consacrées dans la construction de la grande marine? Alors c'est mieux qu'on va faire plaisir à notre reine, leur construire un joli jardin alors on va peut-être avoir plus de promotions. Alors tout l'argent était parti au jardin et on a découvert que les munitions à l'intérieur, ce n'était pas un explosif, mais des sables. Et le bateau avoir des canons qui ont des vitesses beaucoup plus longues que les Japonais. Alors c'est bien sûr à partir de cette situation, comment on espère que cette guerre va finir bien. Donc c'est à partir de ces raisons, le résultat ou la conséquence de cet échec est très significatif. Parce que la Chine, non seulement elle a perdu Taïwan, elle a perdu aussi une partie très importante de Manchourie. Là, il y a des ports militaires très importants et le Japon a réussi à avoir un contrôle effectif sur ces régions. Et ces régions également, toujours dans la rêve de militaires japonais, là, c'est notre terrain de plein de ressources, plein de matériaux importants pour changer notre statut en tant qu'un pays secondaire dans ce monde. Mais bon, après, il y a trois pays, la Russie, l'Angleterre et France, qui a intervenu pour demander les Japonais rentrent ces deux péninsules en Chine. Mais ça n'empêche pas, parce que 10 ans après cette guerre, il y a la guerre entre le Japon et la Russie. Donc, après cette guerre, toute la Manchourie est quasiment sous le contrôle de l'Empire japonais. Alors, on va regarder un peu comment les Japonais utilisaient la victoire de cette guerre pour renforcer leur politique d'expansion maritime. Vous voyez, tout ça, c'est des dessins qui paraissent dans les journaux japonais, dans l'affiche gouvernementale, pour promouvoir ou pour convaincre le peuple de la nécessité de construire le Japon comme une puissance maritime. Vous voyez, les Chinois ont perdu, et puis ils se rentrent dans le bateau. Voilà. Ça, c'est un événement très important pour la Chine contemporaine. Un pays qui a été souvent, et a été depuis toujours, considéré comme un pays marginal, un pays sans importance, un pays qui est sous-développé à côté d'un grand empire, l'empire du milieu, la Chine, le Japon, qui a réussi à battre l'armée maritime chinoise. C'était une humiliation. Et après ça, l'armée de terre japonaise entre en Chine, fait ce qu'il veut, imposer les Chinois, signer toutes sortes de contrats et toutes sortes de sécessions de l'intérêt. Alors pour la Chine, ça c'est la première fois, ce n'est pas la dernière fois, qu'un pays alentour de lui qui lui impose leur volonté, pour quelle raison? C'est pas parce que les Japonais avoir une armée beaucoup plus nombreuse qu'ils imposent les Chinois à accepter leurs conditions. Non. C'est parce que le Japon a contrôlé le passage maritime. Donc il a réussi de gagner la puissance maritime dans ces régions. Alors ça devient un choc très important pour les Chinois. Un peuple qui n'a jamais pensé... Bon, à Ming dynastie, il y avait une exploration de Zheng He qui arrive jusqu'à l'ouest de l'Afrique, mais ça a été fini très bientôt. À cause également de cette pensée traditionnelle que le peuple chinois n'a pas besoin des choses venues de l'extérieur, surtout à travers l'océan. Donc c'est une notion très très importante pour le peuple chinois. Alors à partir de ce moment-là, et à travers la Deuxième Guerre mondiale, quand on regardait le très très riche l'expérience de la guerre pacifique entre l'Empire japonais et américain, on pense que voilà, ça devient quelque chose de primordial pour un pays qui peut avoir un droit de parole pour pouvoir exprimer ce qu'ils veulent ou même seulement garder leur droit. C'est très important de contrôle de ce contrôle de passage maritime. On n'a pas besoin d'aller contrôler jusqu'à le côté de passage nord-ouest ou des endroits comme comme Panama, mais au moins des zones qui est à côté de nous, il faut sous notre contrôle. Maintenant, l'évidence, on ne peut pas. Et les Chinois ne peuvent même pas contrôler Taïwan. Il y a un passage, il y a un détroit de Taïwan qui n'a même pas 150 km. Et c'est un détroit qu'on ne peut même pas contrôler. Alors, sous le régime, bon, sous le régime, après la Deuxième Guerre mondiale, quand le Parti communiste a pris le pouvoir, on s'enferme encore plus parce que, en fait, il n'y a pas trop de choix, parce que les Américains ont construit une grande ligne, une grande chaîne de îles à partir du Japon jusqu'aux Philippines, qui a très bien gardé cette zone qui est intouchable pour la puissance ou pour la capacité navale de la Chine. Donc, ce n'est pas une période que la Chine a pensé à ça non plus. Mais quand la Chine commence à s'intégrer dans l'économie mondiale, ils pensent que voilà, ça devient quelque chose d'intéressant et quelque chose qui est important, qui doit être considéré comme un niveau de la sécurité nationale. En 2002-2003, le président Hu Jintao a publiquement annoncé cette préoccupation. S'appelle, et puis après, les journalistes occidentaux et les chercheurs l'ont nommé dilemme de Malacca. Puisque la Chine est de plus en plus intégrée dans l'économie politique, contrôle de ces passages importants, ou au moins avoir certaine sécurité dans tous ces passages maritimes, devient une mission très importante sous les yeux du gouvernement de Pékin. Mais contrôle avec quelle façon ? Avec une coopération internationale ou avec la façon américaine? Ça, c'est encore sous la discussion et encore dans un débat très important. Mais aujourd'hui, on va plutôt regarder des pensées ou partisans dans les notions un peu plus radicales. Ça veut dire dans l'école de Sipol. Les gens qui prennent un contrôle complet ou un contrôle 100% de tous ces passages maritimes importants. Alors, on doit retourner aux États-Unis, regarder ce amiral marin, qu'est-ce qu'il parle. Il est né en 1940, il est mort en 1914. Dans son livre, son livre a été très très important, non seulement a influencé le Japon, pour que le Japon construise une flotte de combinés la plus puissante à l'époque en Asie. Aussi, influencer l'Allemagne, l'Empire germanique de l'époque de Frédéric, mais aussi influencer aujourd'hui la Chine. Alors, qu'est-ce qu'il parle dans sa théorie? Principalement, il y a trois points importants. La puissance maritime et le contrôle des routes maritimes. Bon, il ne faut pas oublier, à l'époque de Marine, le colonialisme est très populaire. Donc, tous les pays qui veulent devenir une puissance, qui doivent pratiquer les méthodes colonialistes. C'est pour ça, dans son livre, il amène avoir les yeux vers la Chine. Il a dit que contrôle la région de Yangtze, c'est très important. Alors, il a demandé au gouvernement américain d'aller installer la force armée dans ces régions. Parce qu'à l'époque, la Chine était d'une transition entre dernière dynastie et la première république. Donc, il n'y a pas de contrôle ou il n'y a pas de unification effective. Donc, à ce moment-là, Marin pense que pour l'intérêt de tout le peuple américain, c'est important d'aller construire quelques colonies en Chine. Donc, ça, c'est aussi une des raisons que les partisans chinois de Marin. Elle a été très bien réprimée à l'époque de Mao parce qu'on n'aime pas les colonialistes à l'époque. Et deuxième point très, très important, c'est la défense de colonies et du commerce. Donc, deuxième point qui correspond très bien aux besoins de la Chine aujourd'hui. Parce que la Chine aujourd'hui, c'est une économie très ouverte. On exporte toutes les choses vers l'extérieur et on importe des matériels premiers pour fabriquer en Chine. Et on a besoin de l'importer plus que 60% de pétrole qu'on utilise, qu'on consomme en Chine. Donc, tout ça venu des endroits très loin. par exemple, pétrole, principalement venu du Proche-Orient ou l'Afrique. Alors, il faut traverser le détroit de Malacca. Alors, ces régions-là, maintenant, sont sous contrôle de l'armée américaine. Bon. Avec la coopération internationale qu'on peut avoir aujourd'hui, oui, c'est bien, on peut profiter de la puissance américaine. On joue un rôle sage de free rider. Les Américains vont nous protéger. Bon. Mais les Chinois pensent que ça ne va pas durer longtemps et ça pourrait avoir des problèmes. Donc, ce n'est pas une solution qui peut durer longtemps. Donc, troisième point, c'est la puissance de feu de flotte de guerre détermine les résultats de bataille, ainsi que la domination navale. Alors, ici, c'est une explication très importante que les stratégistes chinois commencent à utiliser ça pour expliquer l'échec de la première guerre sino-japonaise et aussi la deuxième guerre mondiale. La deuxième guerre, sinon le japonais, c'est beaucoup plus long que la deuxième guerre mondiale. C'est à partir de 1937 jusqu'à 1945. Ça a duré 8 ans. Et tout au long de ces 8 ans, il n'y a aucun contrôle maritime de la part de l'armée chinoise. Donc déjà, les bateaux japonais, entre les bateaux japonais, patrouillent dans les côtes chinoises comme il n'y a personne. Donc les Américains ne sont pas encore là parce qu'ils n'ont pas encore bombardé Pearl Harbor. Et même les Japonais peuvent entrer à travers Yangtze jusqu'à à l'époque de la capitale de Nanjing pour effectuer les massacres. Donc le Japon a joué montre un exemple très important aux Chinois, le contrôle naval est très important. Alors ça a influencé, toujours enraciné dans les stratégistes ou les politologues chinois dans leur tête. Pourquoi la Chine arrive à ce point-là? C'est parce qu'on n'a aucun contrôle sur le passage maritime et sur notre côte. Alors, construire une marine moderne est devenu quelque chose de très important. Et si on considère qu'à l'époque, avant la réforme de 1979, la Chine n'a pas du tout donné l'importance dans le développement de la marine, on peut imaginer, on va regardez les processus de ces 20-30 dernières années avec un yeux un peu plus tôt. Parce que souvent, les Américains, surtout les marines américaines, critiquent ou mis en garde la modernisation de la marine chinoise comme une intention de devenir une hégémonie de la région. Mais si on considère qu'à l'époque, il n'y a même pas un seul bateau qui est fabriqué en Chine, et il n'y a même pas un seul sous-marin qui est opérationnel à la veille ou le lendemain de la deuxième guerre de la réforme. On peut imaginer pourquoi, pour quelles raisons que la Chine, que le gouvernement chinois a alloué tant de ressources pour moderniser leur armée maritime. Donc ça, c'est au lieu de dire que c'est un changement de stratégie militaire, c'est plutôt une sorte de généralisation ou un rééquilibre de développement militaire pour certaines raisons, mais on ne peut pas surestimer l'importance de cette croissance sur le budget militaire en Chine. Alors, à partir des marins, il y a deux politologues les plus importants qui préconisent l'importance de le contrôle maritime. Donc, c'est ce qu'on appelle les mariniens chinois. Premier, c'est Ni Lexiong. Deuxième, c'est Zhang Wenmu. Ces deux avoir une approche un peu différente. Le premier qui a un livre très important s'appelle « La transformation des civilisations et la puissance maritime de la Chine ». Donc, il a mis plutôt l'accent sur la transformation ou le changement de la mentalité chinoise. Il pense que voilà, aujourd'hui, la Chine a sorti de la pauvreté, avoir un peu de résultats de développement, parce qu'on commence à penser l'importance du développement économique. Alors, on commence à essayer de s'intégrer dans l'économie mondiale. Mais le moment où on effectue ce changement, on accentue également la dépendance chinoise dans tout ce transport maritime. Parce que c'est impossible de transporter tous les produits par l'avion ou par la voie terrestre. Ça ne vaut pas le coup parce que c'est toujours le plus moins cher d'utiliser la voie maritime pour transporter surtout les produits avec les voies supérieures. Donc pour lui, c'est important d'avoir ces notions parce que pour lui, le peuple chinois reste toujours un peuple continental. Un peuple continental qui ne pense jamais que ça vaut le coup d'investir pour la protection de notre voie, pour notre voie maritime, c'est ce qu'on appelle Sea Line of Communication, SLOC. C'est pas important, parce que de toute façon, ceux qui nous passaient la commande sont des grands pays, sont des régions développées, c'est eux qui ont aussi l'intérêt de protéger cette voie maritime. Mais c'est tous ces ces deux penseurs à tous lient très bien les théoriciens occidentaux qui font des études sur la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. La dépendance, l'interdépendance économique n'a jamais à prévenir la guerre. Il a montré comme bon exemple la interdépendance entre l'Angleterre et l'Allemagne n'a pas évité la Première Guerre mondiale. Donc, pour eux, soit préparer maintenant, soit on doit assumer les résultats. Si jamais ça se passe une guerre entre la Chine et certaines puissances occidentales. Donc ça, c'est ce qu'il a essayé de changer ses idées. Parce que il faut savoir, à partir des établissements de la Chine populaire chinoise, l'armée de terre est toujours très importante dans l'échelon le plus élevé de l'armée chinoise. C'est toujours considéré comme l'armée de terre. Même de plus grands mariniens dans l'armée chinoise, Liu Huaqing, il a été promouvoir comme chef de sergent-major, chef d'état-major. Il a dû changer son uniforme. Il a dû changer son joli uniforme blanc à uniforme vert. Il doit servir sa fonction comme l'armée de terre. Alors, il y a une grande résistance dans l'armée chinoise concernant cette concurrence entre les ressources allouées. Dans l'armée de terre, toujours penser qu'ils sont très importants parce qu'on doit, défendre notre frontière terrestre. Si l'on, en plus, c'est avec la Russie, donc c'est très important, avec la Russie, donc c'est très important. On a besoin de beaucoup plus d'argent. Mais les gens comme Ni Lerong, qui a beaucoup fréquenté les militaires chinois, il a pensé que non, il faut changer ses idées. Et le monde a changé. Et notre relation avec les Russes a changé aussi. Ça, c'est également un point très important. Après, quand on va mentionner Zhang Wenmu, quand il s'agit de le changement arctique, elle a été évoquée dans leur livre pour parler de le changement de géopolitique. Alors, pour lui, c'est plutôt dans ce côté qu'on doit essayer de ajuster notre mentalité pour une Chine encore plus ouverte et s'intégrer dans l'économie mondiale. Mais Zhang Wenmu, c'est plutôt dans le côté géopolitique. Pour lui, oui, c'est très bien et c'est très important le développement économique. Mais la sécurité nationale doit être au-dessus de tout ça. Donc, si la sécurité de la Chine ne peut pas être garantie, tous les résultats ou les fruits de développement ou la croissance économique, ça ne sert à rien. Alors, il est beaucoup plus influencé par ce qu'on appelle en Chine 100 ans de humiliation. Et pour lui, c'est très important, non seulement changer la mentalité, on doit essayer d'avoir le plus de contrôle possible. Ça commence par ce qui en a perdu dans la première guerre sino-japonaise. C'est qui? C'est Taïwan. Donc pour lui, pour avoir un État enfin, utilement, unifié, c'est le Taïwan qu'on doit le reprendre. Maintenant, ça a l'air qu'il y a moins de possibilités que ça se passe la guerre entre la Chine et le Taïwan, surtout quand il y a nationalisme qui est lié avec ces îles de Diaoyu qui est devenu de plus en plus important. Mais ce n'est pas les deux peuples qui peuvent décider eux-mêmes le destin Taïwan ou la future perspective, la réunification chinoise. Il y a le Japon qui est juste à côté. Il y a les États-Unis qui continuent de vendre l'arme au Taïwanais. Parce qu'il y a la loi. Il y a la loi qui a été passée quand la Chine établit relations diplomatiques officielles avec les États-Unis. Les Américains ont passé une loi pour la protection de Taïwan. Dans cette loi, on a garanti au gouvernement taïwanais qu'on veut continuer de vendre de l'arme défensive. C'est pour cette raison qu'il y a toujours les bateaux qui sont vendus. Il y a des missiles pas dans le premier rang, mais pour défendre l'invasion chinoise vers Taïwan, c'est suffisant. Donc ces deux facteurs sont toujours là. Alors pour le chercheur comme Zhang Wenmu, ça c'est la première mission, le plus important. Alors d'où vient la sensibilité et toutes ces disputes liées à l'île de Diaoyu aujourd'hui. Alors, dans son livre, il a également évoqué pourquoi on est capable, ou c'est le moment, c'est une bonne occasion, qu'on alloue plus de ressources, ou on va changer notre attention vers la mer, mais pas dans la terre, qu'il était une menace éternelle pour le peuple chinois du Nord. Il a évoqué la possible ouverture de la passage nord-est. C'est la première fois dans l'histoire du peuple russe que le Nord n'est plus une protection, mais au contraire un passage libre. Pour lui, étant donné que la croissance ou la possibilité d'augmenter la population en Russie est très très faible, ce potentiel danger, ce danger potentiel va devenir un facteur très important, changer la stratégie géopolitique de la part de Russie. Donc, la Russie au nord de la Chine n'est pas seulement un œil regarder la Chine, mais il faut regarder sur leur dos. C'est exactement pour lui, c'est un parallèle, c'est un analogue exactement comme ça se s'ouvre la mer de Chine de l'Est à 18e, 19e siècle qui a fait perdre la Chine une grande protection de la côte sud-est. Aujourd'hui, 200 ans après, c'est la Russie. Donc pour lui, c'est une bonne occasion d'améliorer les relations sino-russes. Et c'est une bonne occasion aussi que la Chine peut enfin avoir une position égale avec leurs voisins du Nord. Ici, je vous montre dans les quatre théories de Zhang Wenmu comment il voit le monde. Ce n'est pas une représentation du gouvernement chinois, mais selon la réputation de ce professeur, c'est très important, et on pense qu'il a de l'influence surtout sur la formulation des idées stratégiques de l'armée chinoise. Pour lui, le rôle de la Chine n'est pas de devenir légèrement comme les États-Unis ou devient un adversaire équivalent de lui. Il est assez modeste de considérer que la Chine est une partie de ce force triangulaire. Pour lui, il y aura trois forces les plus importantes dans le monde. La Russie, les États-Unis et la Chine. Et il ne veut pas regarder qu'est-ce qui va se passer en Europe, qu'est-ce qui va se passer en Afrique ou l'Amérique latine, mais il concentre sur l'Asie de l'Est. Donc pour lui, qui peut décider la réorganisation de la carte asiatique, c'est ces deux pays, la Russie et les États-Unis. Et la position que le gouvernement chinois doit choisir, c'est de ne pas aller mettre sur leurs pieds. Alors ici, il a mis des lignes rouges, c'est les lignes de l'intérêt stratégique de la Russie. Donc, pour lui, la Russie, les Russes, a toujours pensé de trouver un sortir vers la mer. Oui, en tant qu'un pays continental qui a été toujours enfermé par les autres puissances à l'intérieur du continent euro-asiatique, pour lui, c'est très important. Pour lui, percevoir que la stratégie à partir du 19e siècle de grands jeux en Asie centrale jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la guerre froide, la confrontation avec les États-Unis, La Russie, les Russes, toujours essayaient de chercher une sortie. À côté de l'Est, un port qui ne gèle jamais, ce rêve a été déjà fini parce que la relation entre la Chine et la Russie ne peut pas s'empirer seulement pour cette raison. Et le port de Vladivostok est quand même assez idéal dans la technologie aujourd'hui. Donc il ne va pas descendre. Donc c'est là où ça s'arrête dans le côté asiatique. Et dans le côté l'ouest, il faut garantir la sortie de la mer Noire. Mais il y a aussi une tentation qu'on voit aussi dans les 10 ans de la guerre d'Afghanistan, de l'invasion russe en Afghanistan, de sortir vers l'océan Indien. Mais l'océan Indien est aussi un endroit très important pour les Américains. Et au contraire de chercher de la sortie vers la mer des Américains, l'importance ou le point central de la stratégie globale des États-Unis, c'est la garantie de liberté de circulation, la liberté de passage maritime. C'est pour ça qu'il y avait une ligne qui est très importante, reliée Alaska jusqu'à Hawaï. Et puis, de Hawaï, on fait un détour vers l'Asie parce que c'est là d'où vient le pétrole. D'où vient le pétrole vers la côte ouest. Donc, ça continue ici jusqu'à l'île de Guam et traverser au-dessous, assez loin, de Taïwan jusqu'à Philippines et détroit de Malacca, et on doit contourner la puissance indienne. Mais il y a une base militaire assez loin de le bout de l'océan Indien. Là, il y a une base américaine. Et puis, vers le canal de Suez, c'est là où on doit garantir la libre circulation. Alors, selon lui, regardez la carte, Taïwan est assez loin de ce passage. Donc, selon lui, la réunification avec Taïwan peut se passer pacifiquement parce que ce n'est pas dans l'intérêt principal, l'intérêt central de la stratégie globale des Américains. Mais ici, on voit que dans le Nord, ça confronte déjà. Quand la Chine veut traverser ce côté pour aller vers le côté, le passage nord-ouest, évidemment, il y aura les Américains qui restent là. Tout à l'heure, comme Dorval nous a raconté, que les Chinois ont réussi à réaliser le premier passage de l'Arctique. Ils n'ont pas choisi de notre côté, parce que ce n'est pas chez nous qu'ils ont passé. Ils passaient à côté de Russes. Ils choisissent le passage nord-est. Il vient de rentrer le 28 septembre, le Chelon rentré à Shanghai. Et c'est un passage pour les Chinois qui est plus profitable aussi. Et ici, on verra qu'il y aura une coopération potentielle entre la Chine et la Russie. Et les Russes. Donc c'est ici qu'on va peut-être voir beaucoup plus vite. Et c'est ici qu'on va également voir comment les Chinois vont percevoir cette idée de souveraineté. Et ça lié avec tous ces endroits où il y a la puissance américaine qui est intervenue. Par exemple, dans cette ligne-là, le bout de Indochine, on voit la mer du Sud. Ça, c'est l'intérêt principal, central des États-Unis. Quand les États-Unis promouvoir la libre circulation, ça a directement touché à l'intérêt chinois. C'est exactement ici que je pense qu'on aura la possibilité d'avoir une coopération avec les Chinois pour discuter notre passage de Nord-Ouest. Parce que c'est à peu près la même situation. Selon les Canadiens, non, ce n'est pas la même situation parce que ce n'est pas du tout la même condition géographique ou climatique. Donc, ce n'est pas comparable. Mais quand on parlait avec les chercheurs chinois la dernière fois, les Chinois étaient très contents de le mettre deux choses ensemble. Ça veut dire, si le Canada va accepter cette notion le Canada, tu as toujours dire ça, des eaux intérieures, est-ce que ça pourrait profiter les Chinois de déposer leur déclaration sur la mer du Sud? la mer du Sud, il y a plusieurs îles qui ont été occupées effectivement, militairement, par, soit par Taïwan, soit par la Chine. Donc c'est là où on voit aussi qu'il y a des conflits potentiels. Mais ici, il y a des forces américaines, ça a compliqué les choses, mais c'est exactement la même conjoncture quand on regardait le passage de Nord-Ouest. Donc ici, ça donne un potentiel, mais il faut accentuer, il faut souligner encore une fois que le gouvernement chinois n'a pas pris la position. Et le gouvernement chinois, comme il est dans tous les affaires, relations internationales, il est relativement ambigu. Ça fait partie de la nature chinoise. On n'aime pas parler des choses trop claires. Hein, c'est comme ça. Peut-être vous avez trouvé que ce que je parle n'est pas très clair non plus. Mais ça, c'est pas parce que moi, je suis chinois, ça devient comme ça. Mais étant donné que la Chine, c'est une puissance montante, c'était dans leur avantage de parler toutes les choses clairement. Et en plus, le processus ou le mécanisme de la prise de décision chinoise, c'est toujours assez opaque et assez difficile. C'est pas parce que c'est un pays, on peut l'appeler autoritariste, toutes les choses se font plus facilement par rapport avec chez nous. Non, pas du tout. Il y a toujours des allers-retours, il y a toujours des débats. C'est tout simplement parce qu'on n'en a pas vu. Et ce genre de document, les politologues chinois vont lire, bien sûr. Eux, ils vont être consultés. Mais eux, ils ne peuvent pas être sûrs non plus que c'est mon opinion qui va être utilisée ou c'est des autres. Donc, même pour les Chinois, c'est difficile à savoir comment ça se joue, ce genre de processus. Sans parler de nous, ce genre de document n'était jamais traduit en langue étrangère, ça n'était jamais rendu public. Donc il est normal que la position chinoise soit un peu difficile à décrypter. Mais je vous montre ici la possibilité qui est objective, qui est réalisable, mais ce n'est pas non plus pour changer les opinions d'Ottawa de commence à considérer que la Chine comme un meilleur ami ou un coopérateur potentiel. Mais ce sont des faits ou des éléments qu'il faut prendre en considération.